Voulez vous lever, on va lire l'Apocalypse, chapitre 20, les versets 7 à 10. Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant du ciel descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Alors, si vous voulez vous asseoir... Alors, j'ai intitulé tout simplement aujourd'hui le sermon « Satan est délivré de sa prison et séduit les nations pour détruire l'Église. » Alors, son intention, c'est qu'après que le 1000 ans passe, Dieu le délivre de sa prison et lui, son intention, c'est de détruire l'Église à tout jamais. Et c'est là que le moment arrive, le grand retour du Seigneur, le grand jugement. Et on va voir la semaine prochaine le jugement en détail. Et cette semaine, on voit que, dans le fond, ce que Dieu nous dit, c'est que le 1000 ans, si on avait vu la semaine dernière que le 1000 ans, c'est une période indéfinie qui commence avec la résurrection de Christ et qui se termine quand le Seigneur revient. Alors, 1000 ans, c'est, autrement dit, durant toute la période de la formation de l'Église. Le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église ». Puis il dit à chacun de nous qu'on est une pierre vivante. Donc, il est en train de construire son Église. À partir du moment où l'Église va être construite, il dit qu'il va relâcher Satan, et Satan va avoir l'intention et la prétention de croire qu'il est capable de détruire l'Église à tout jamais. Alors, ce n'est pas une petite chose qu'il veut faire. Alors, dans le verset 7, on va voir que Satan est délivré de sa prison. Dans le verset 8 et 9, on va voir que Satan rassemble les nations avec l'intention de détruire l'Église. L'Église, c'est gros, là, c'est international. Il y a probablement des millions de personnes. Alors, détruire, c'est, il faut que tu prennes des grands moyens, comme on dit. Et la troisième idée qu'on va regarder, c'est que c'est là que Dieu intervient, Jésus intervient en revenant. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il juge Satan, il juge tous ceux qui vont être rassemblés, parce que c'est tous des ennemis de Dieu. Dieu les juge et il dit qu'il les jette dans l'étang de feu pour l'éternité. Alors, on sait que quand l'Église va être terminée, nous, on n'a pas d'idée là, combien de pierres l'Église de Christ comprend. Mais on est peut-être plus proche de la fin qu'on pense. Alors, s'il est en train de mettre ses dernières pierres, peut-être que le retour du Seigneur est très, très proche. Alors, on a regardé, dans le fond, il faut regarder le passage en tenant compte de ce qui a été dit. On va regarder les versets 1 à 3, dans le fond, ce qu'il voulait nous dire. Dieu voulait nous dire que c'est lui qui avait décrété divinement qu'il y aurait un moment, une période où Satan serait restreint dans son pouvoir de vouloir détruire l'Église et d'empêcher la diffusion et que le Seigneur cherche à bâtir. C'est pas qu'il n'y avait pas aucun pouvoir, mais le Seigneur avait fait en sorte qu'il restreignait son pouvoir pendant 1000 ans. Et on a déterminé qu'on croyait que le 1000 ans, ce n'était pas un 1000 ans littéral, mais que c'était plus un moment de l'histoire où Dieu a décrété que Satan ne pouvait pas vraiment empêcher que Jésus bâtisse son Église. Donc, durant toute cette période de 1000 ans symbolique-là, l'Évangile pourra se diffuser et pourra prendre de l'expansion. Si on regarde depuis le début, depuis l'acte des Actes des Apôtres, à venir jusqu'à aujourd'hui, l'Église a vraiment pris beaucoup d'expansion. Elle s'est répandue dans tous les pays du monde, dans toutes les langues, comme les Écritures disent, dans toutes les langues de tous les peuples. Alors, il faut se rappeler que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est les paroles de Jésus lui-même. Il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » C'est une promesse qui est en train de dire, « Peu importe que ce que Satan va faire, il ne m'empêchera pas de réussir à bâtir mon Église. » Dans les versets 4 à 6, on avait vu que c'était un passage parallèle qui se produisait à la même période. Donc, durant la période où l'Église se construit, le Seigneur a voulu qu'on voit l'autre côté. Il y a des saints qui sont des martyrs, il y a des saints qui sont déjà passés sur la terre, qui sont déjà décédés. Il voulait qu'on sache où ils sont. Alors, c'est très important de le voir. Dans les versets 4 à 6, Dieu a voulu que nous sachions que tous ces élus décédés, les martyrs, les persécutés et tous ceux qui n'ont pas adoré la bête règnent déjà avec Christ au ciel dans la parfaite félicité pendant le même 1000 ans. Autrement dit, la période où le Seigneur restreint Satan, cette même période-là, il y a des gens qui sont déjà au ciel, ceux qui sont décédés en Christ, ceux qui ont été martyrs et ceux qui ont été persécutés. Alors, on arrive au point, au verset 7, « Quand les 1000 ans seront accomplis, que la Bible nous dit, alors la construction de l'Église aura été accomplie et sa mission sur la terre aura été réalisée. » Parce que ça dit dans le verset, ça l'avait dit dans le verset 3, et après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, Satan sera relâché de sa prison et il lancera la persécution finale et il conduira lui-même le dernier combat qui liguera toutes les nations pour détruire l'Église. Ce n'est pas une petite chose. C'est en train de dire qu'à un moment donné, Dieu va donner à Satan le pouvoir de liguer les nations, tous ceux qui ne sont pas trouvés, parce que dans le fond, ça va être les ennemis de Dieu. Il va les rassembler. Dans le fond, est-ce que c'est un rassemblement physique? La plupart, beaucoup d'auteurs, en tout cas les réformés, disent que ce n'est pas un rassemblement nécessairement physique, que c'est plus l'unité que les méchants vont avoir entre eux pour embarquer dans l'idée de vouloir détruire toute l'Église. Alors, il va y avoir différents moyens. On va les regarder un peu plus tard, tantôt. Alors, à partir du moment que les choses vont arriver, qu'il va faire ça, là, c'est là que le Seigneur revient, enlève son Église. L'enlèvement, de la manière dont les réformés le comprennent, l'enlèvement correspond avec le second retour. Quand Christ revient, il enlève son Église, et là, après ça, c'est le règlement des comptes, autrement dit. Alors, le premier point qu'on va regarder, Satan délivré de sa prison, on relit le verset 7, « Et quand les 1000 ans seront accomplis, là, c'est sûr que ceux qui sont dispensationalistes disent que le 1000 ans, c'est 1000 ans littéral. La plupart des auteurs réformés disent que ce n'est pas 1000 ans littéral, c'est une période où Satan est restreint. Alors, il va y avoir une période, on est dans la période où Satan est restreint, mais quand la dernière pierre va être ajoutée, quand Christ va avoir complété son Église, il faut, il veut que Satan soit délivré de sa prison. Alors, cette vision vient accomplir ce qui avait été prédit dans le verset 3, qui affirmait qu'après les 1000 ans, il fallait que Satan soit délié pour un peu de temps. Bien entendu, cette idée-là s'harmonise avec ce qu'enseigne le reste des Saintes Écritures. On va aller regarder un passage dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Alors, c'est important de voir que les Écritures ne se contredisent pas d'un passage à l'autre. On parle de la même chose. Quand on parle ici, dans le verset 1, l'avènement de notre Seigneur, c'est quoi l'avènement de notre Seigneur? C'est son retour. Alors, ça dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, » c'est quoi ça? Il revient, il reprend son Église avec lui. C'est ça, l'enlèvement correspond avec le retour du Seigneur. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Alors, il semblait qu'à l'époque des Thessaloniciens, il y a des gens qui disaient, « Ah, le Seigneur est déjà revenu. » Ils disaient, « Oh, on a reçu une lettre de lui. » Puis lui, il dit, « Laissez-vous pas ébranler par ce type d'information-là. » C'est pas vrai. Alors, dans le verset 3, « Que personne ne vous séduise. » On parle de séduction, on vient de parler de séduction. « Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient mensonges et afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, on voit que ce passage-là se rattache avec celui qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Autre passage. Donc, on voit que, par ce qu'on est en train de lire, c'est que le retour du Seigneur et l'enlèvement arriveront donc au même moment. C'est la compréhension de la plupart des réformés qui disent que c'est pas la compréhension dispensationaliste où on dit que l'Église est enlevée, il y a une période de 7 ans, après ça, on rentre dans une période de 1000 ans. On n'est pas d'accord avec cette interprétation-là. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Là, ça parle vraiment qu'on est dans le dernier temps. C'est le Seigneur lui-même qui... C'est l'Esprit lui-même qui dit... Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, il nous dit, il y a deux endroits qui nous dit qu'il faut que l'apostasie arrive. On va avoir un peu plus de détails tantôt sur ce que plusieurs croient que c'est l'apostasie. Alors, l'apostasie, dans le christianisme, c'est le rejet du Christ par un chrétien. Vous remarquerez que dans le texte, ceux qui ont les feuilles, j'ai marqué « chrétien » entre guillemets. Parce que je ne crois pas, et je suis avec en bonne compagnie avec beaucoup de théologiens qui ne croient pas que c'est possible qu'un véritable chrétien abandonne la foi. Il n'abandonne pas la foi. Le terme apostasie, ça vient du grec apostasia, et ça signifie défection. Quand on dit, par exemple, quelqu'un va à la guerre, puis il défection, ça veut dire quoi? Il abandonne, il laisse son troupeau, il laisse ses soldats se battre tout seul, il sauve. Alors, défection, départ, et révolte, et rébellion. Toutes ces choses-là sont dans le terme apostasie. Ça veut dire qu'à la fin des temps, Dieu est en train de nous dire qu'il y a beaucoup de monde qui porte le nom de chrétien, qui vont abandonner, mais selon l'opinion d'une multitude de théologiens, ce n'est pas des véritables chrétiens. C'est des gens qui ont professé, sont assis dans des églises, mais quand la pression va arriver, ils vont tout abandonner. Parce qu'ils ne sont pas des véritables chrétiens. Quand Dieu fait un cadeau, le cadeau du salut, tu vas l'avoir jusqu'à la fin de tes jours. Tu Tu peux pas le perdre. Tu peux pécher, tu peux faire des affaires, des bêtises monumentales. Regarde, prenons David. Il a tué. Il a couché avec la femme du voisin. Est-ce que Dieu lui a enlevé son salut pour ça? Non. Alors, c'est très important pour nous de savoir ça. Sinon, on serait complètement découragé. Parce qu'au point de vue, dans la vie d'un chrétien, qui n'a pas eu de chute? Tout le monde a eu des chutes. Puis on va continuer de en avoir jusqu'à la fin. C'est le Seigneur qui nous maintient dans le droit chemin, qui nous donne la persévérance et qui nous... c'est la plus grande des bénédictions. S'il fallait que le salut soit basé sur notre comportement ou sur notre marche chrétienne, ça serait pas drôle, là. Alors, il est essentiel que nous comprenions ce qu'est l'apostasie et comment elle se manifeste. À mon avis, je ne sais pas que j'avais aucune connaissance sur le mot apostasie. J'avais déjà vu ça avant, dans des livres. Mais j'ai fait la petite recherche dans le site qui s'appelle gotquestion.org. Et lui, j'ai trouvé qu'il avait donné une définition de ce que c'est l'apostasie. On a besoin de comprendre, parce qu'il dit qu'avant que la fin du monde arrive, il faut que l'apostasie soit arrivée. Alors, si on ne comprend pas c'est quoi l'apostasie, comment on va se rendre compte qu'on est dans les périodes qui précèdent l'apostasie ou qu'on est en plein dedans? Moi, à mon avis, on est en plein dedans. Ensuite, il parle de Jude. Là. Il parle parce que Jude parle beaucoup de l'apostasie. Ensuite, Jude décrit les apostats comme des impies qui abusent de la grâce de Dieu pour justifier leur injustice. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il mentionne 18 caractéristiques. Vous les comptez, si vous voulez. Il y a 18 caractéristiques qui font en sorte qu'on peut dire de quelqu'un qui est apostat. Il mentionne 18 caractéristiques peu enviables des apostats pour permettre à ses lecteurs de les reconnaître plus facilement. Quand on les compte, ils sont impies. C'est quoi un impie? C'est quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui vit comme un païen. Tout simple que ça. N'avez-vous vu dans votre vie chrétienne? Malheureusement, j'en ai vu trop. Il dit, ils sont impies, débauchés. Ça veut dire que quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit comme un débauché, c'est un apostat. Après ça, il dit qu'il renie Christ. Avec ce qui s'en vient là, dans l'apostasie, dans l'écuménisme, il y en a beaucoup qui renient Christ. Parce qu'ils disent, toutes les religions vont te mener au ciel. C'est pas ça, renier Christ, c'est quoi? La Bible dit, dans Actes 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Si tu places ta confiance en d'autres personnes que la personne de Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, tu es un apostat. On le voit de plus en plus aujourd'hui, il y en a... Ça grossit, là, tout ce qu'on appelle... En tout cas, on était rendu à renier Christ, souillent leur corps par toutes sortes de moyens. Les Écritures nous parlent de souiller notre corps par quoi? Par la sexualité. Nous parlent aussi de souiller notre corps par les drogues. Les drogues, ça souille le corps. Ça nous dit, la Bible nous dit que c'est notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, après ça, il dit qu'ils sont rebelles. Après ça, ça dit qu'ils insultent les anges, qu'ils ignorent Dieu, ils parlent de fausses visions. Dans certains milieux, ça marche pas mal, les fausses visions. Ils sont autodestructeurs, toujours mécontents, se plaignent sans cesse, marchent selon leurs désirs, tiennent des discours arrogants et flattent par intérêt, se moquent de Dieu, provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre, et enfin, ils n'ont évidemment pas l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sauvés. Quand on regarde ça, il dit que tout ça, il faut que ça arrive avant que le Seigneur revienne. Parce qu'on parle, dans Thessaloniciens, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son second retour. Il dit qu'il faut que ces choses-là arrivent avant. Alors, ça veut dire... que si on observe le milieu chrétien de notre temps, est-ce qu'on reconnaît que beaucoup de ces choses-là sont déjà présentes dans ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ? Moi, je pense que oui, malheureusement. Et après ça, il y a un petit peu plus loin, il nous dit, il y a deux formes principales d'apostasie. L'éloignement des doctrines bibliques essentielles, au profit d'enseignements hérétiques, se revendiquant comme la véritable doctrine chrétienne. Autrement dit, tu es un apostat quand tu lâches qu'est-ce que la Bible enseigne sur Dieu, sur Christ, sur le salut. Et ça, je peux vous dire aujourd'hui, c'est beaucoup d'églises, au point de vue doctrinal, sont comme ils glissent profondément. Donc, il y a l'éloignement des doctrines. Ça, c'est la première étape. Mais normalement, qu'est-ce qui arrive quand une Église s'éloigne des doctrines fondamentales? Bien, le comportement suit. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a deux sortes d'apostasie. D'abord, l'apostasie que tu t'éloignes des vérités. Puis deuxièmement, la renonciation. Alors, la deuxième étape, c'est vraiment que ça se reflète dans ton comportement. Ça se reflète dans l'ensemble du comportement de ceux qui se disent de Christ. C'est ça qui est l'apostasie. Moi, personnellement, je peux vous dire une chose, ça fait des années que j'observe la scène religieuse. J'en ai lu beaucoup de choses sur l'apostasie. J'ai lu aussi beaucoup de choses sur l'écuménisme qu'on est en train de vivre. Et il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on voit dans la scène actuelle. Bon, c'est à nous de tirer nos conclusions. Deuxième idée qu'on va regarder, c'est que ça nous dit que lorsque le 1000 ans va être accompli, moi je pense que c'est quand le Seigneur va avoir fini de construire son église, va avoir mis la dernière pierre, c'est fini. Là, il dit à Satan, OK, vas-y, tu veux les séduire, séduis-les. Alors, ça dit, quand le 1000 ans sera passé, il sortira, qui ça? Il, Satan. Satan, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Donc, autrement dit, tu es en train de dire que c'est la chose qui va arriver, ça va être international. Quatre coins de la terre, nord, sud, est, ouest, ça va venir de partout. Gog et Magog, on verra tantôt pourquoi il utilise cette expression-là. Et il les assemblera pour combattre. Et leur nom est comme le sable de la mer. C'est sûr, on parle de l'ensemble des hommes qui ne sont pas régénérés. Lorsque le Seigneur va revenir, c'est sûr qu'ils vont être comme le sable de la mer. On est 8 milliards. Sur 8 milliards, combien il y a de véritables chrétiens? Peut-être juste quelques centaines de millions, peut-être, possiblement. Je n'en connais pas le nombre. Personne n'en connaît le nombre. Mais la chose qu'on voit, c'est que les 8 milliards actuellement ne peuvent pas prétendre qu'ils sont dans la... Et ça dit... Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. On va voir aussi qu'est-ce que le Seigneur veut dire par le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu, voyez-vous comment ça arrive? Ils se rassemblent, ils veulent détruire l'église. Ouh! Le Seigneur apparaît soudainement, sans aucun avertissement. C'est soudain, c'est inattendu. Alors, le Seigneur, il va arriver comme ça. On ne s'en attend pas, là. Disons que ça sera aujourd'hui, là. On s'attend-tu que ça sera aujourd'hui?
Non.
Non. Soudain, ça veut dire que c'est imprévisible. Et là, ça dit un feu venant de Dieu. Un feu, normalement, dans les Écritures, le mot feu est bien gros rattaché avec le jugement. Un feu venant du ciel, descendit du ciel et les dévora. Ça veut dire que le feu va être suffisamment puissant pour les détruire. Alors, Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 10, dit qu'à la fin de cet âge, on est dans l'âge de la fin, lorsque l'Église aura terminé sa mission, le Seigneur accordera au diable un court délai pour rallier les méchants, les ennemis de Dieu et de Christ, des quatre coins de la terre, pour un assaut final contre le peuple de Dieu. C'est alors que le Seigneur Jésus revient et juge Satan et tous ses alliés. Comme je disais dans les commentaires que j'utilise, on devrait-tu avoir peur de ce jour-là? La réponse était oui et non. On devrait avoir peur parce que si on est des chrétiens, puis que cette chose-là se réalise, on va s'apercevoir que le degré de persécution qu'on a connu jusqu'à l'heure actuelle, c'est rien du tout. Là, ça va être sérieux, là. Ça va être extrêmement sérieux. Quand on parle de tous les ennemis de Dieu qui se rassemblent en même temps pour attaquer le peuple de Dieu, on devrait-tu avoir peur? La réponse, c'est, les auteurs disent tous oui et non. Oui, parce que, hey, quand ça va arriver, non, parce que en même temps, Dieu a dit que ceux qui lui appartiennent, peu importe ce qu'ils te feront, emprisonné, battu, tout ce que tu voudras, tu es certain de ta victoire. Ça peut faire mal, du coup. Dieu n'a jamais dit, le Seigneur a dit qu'on ne serait pas mieux, les disciples ne seraient pas mieux que le maître. Quand on regarde ce qu'ils ont fait au maître, ça veut-tu dire que nous autres, on va être dispensés de ça? Moi, je ne pense pas. Alors, le commentateur et pasteur Joel Bickey affirme ici qu'il ne s'agirait pas d'une bataille militaire. Fait qu'on parle de guerre, hein? Mais il y a bien des sortes de guerres. Parce qu'on dit que dans le mot original grec, c'est combat. Alors, un combat, quand tu veux combattre l'Église chrétienne, il y a plein de façons dont tu peux essayer de la détruire. D'abord, Satan, c'est essayé bien des fois. Mais il dit qu'à la fin des temps, quand tout son pouvoir de séduction va lui être redonné, là, il va vraiment unifier les ennemis de Dieu pour essayer de nous détruire. C'est bizarre parce que c'est là que le Seigneur dit qu'il intervient. L'intervention divine est très importante, là. Alors, il dit qu'il utilise une image militaire pour décrire l'intensité et la violence de la persécution que Satan aura l'intention de faire subir à l'Église du Christ. C'est pas à cause de l'intention de faire quelque chose que Dieu va te permettre d'exécuter ce que tu as l'intention de faire. Le Seigneur avait déjà dit dans Matthieu 16 que les portes de l'enfer, l'expression « les portes de l'enfer », c'est les forces les plus intenses, les plus... y arriveront jamais. Alors, l'intention de faire subir à l'Église de Christ, c'est le moment où le Seigneur revient et juge sévèrement et définitivement ses ennemis. Alors, la séduction de Satan ne pourra s'exercer qu'à la fin des temps. Juste un peu avant le retour du Seigneur. Satan séduira les nations au point de leur faire croire qu'elles seraient capables de détruire l'Église du Seigneur et qu'elles pourraient prendre le contrôle global du monde entier. Je trouve que ça commence à ressembler au portrait de ce qu'on voit actuellement. Pas mal beaucoup. Alors, quand ils utilisent l'image de Gog et Magog, là, on ne parle pas de Magog à côté de Sherbrooke, là. On parle d'un autre Magog. Alors, ces deux noms avaient été donnés aux plus grands ennemis d'Israël dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si on prendrait le plus grand ennemi pour les Israélites, c'était Gog et Magog. Apparemment, il y avait des Syriens là-dedans. Alors, il faut vraiment retourner dans l'histoire ancienne pour comprendre. Mais je pense que le Seigneur utilise ici des mots pour nous parler de ce qui se passait dans l'Ancien Testament pour que les ennemis de Dieu avaient tenté de détruire le peuple de Dieu et que le Seigneur avait empêché que ça arrive. Il veut prendre une image forte que les Juifs connaissaient très bien. Nous, des fois, à cause de ces affaires-là, bien souvent, Ézéchiel, je le sais par expérience, Ézéchiel n'a pas beaucoup, même peut-être même, qui l'ont lu. Quelque part, on ne sait même pas de quoi il parle. Alors, ces deux noms avaient été donnés aux plus grands ennemis d'Israël dans l'Ancien Testament. On va aller voir Ézéchiel, chapitre 38, justement, versets 14 à 16. C'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise. Et dit à Gog, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, ne sauras-tu pas en ce jour-là qu'Israël, mon peuple, habite en sécurité? Et pourtant, tu viendras de ton pays, de l'extrême nord, toi et plusieurs peuples avec toi, tous gens de cheval, une grande multitude et une puissante armée. Tu monteras contre mon peuple d'Israël, pareil à une nuée qui couvre le pays. Ce sera dans les derniers jours. Je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Alors, tout semble indiquer que le Seigneur veut utiliser l'image des grands ennemis d'Israël de l'Ancien Testament pour faire une comparaison de ce qu'il fera à ses ennemis à la fin, précédant son retour. Il prend ce qu'il y a de plus pire comme ennemi dans l'Ancien Testament et il dit, voici ce qui s'est passé à cette époque-là, ça va se passer à la fin. Alors, tout semble indiquer que le Seigneur veut utiliser l'image des grands ennemis d'Israël de l'Ancien Testament pour faire une comparaison de ce qu'il fera à ses ennemis à la fin, précédant son retour. Le combat sera universel, par les termes, il rassemblera ses ennemis des quatre coins de la terre, et ils vont être très nombreux, les ennemis, parce que ça dit, comme le sable de la mer. Si vous allez sur le bord de la mer, du sort, il y en a pas mal. Alors, contre qui sera dirigé le combat? Là, il y a deux termes qui sont utilisés. On parle du camp des saints et de la cité bien-aimée. Quand vous reculez dans le livre d'Exode, quand vous étudiez le livre du tabernacle, le camp des saints, c'était quoi? C'était quand le Seigneur a fait marcher son peuple dans le désert. En même temps qu'il marchait dans le désert, il a voulu qu'il construise le tabernacle qui était une image du Christ. Il était dans des tentes. Quand on vit dans des tentes, selon vous autres, on est-tu un petit peu vulnérable?
Oui.
On est-tu un petit peu facile à attaquer, une tente? Il n'y a pas rien de plus facile à briser que ça. Alors, il utilise l'image que le peuple de Dieu, il compare au camp des saints. Vraiment, ça fait référence au campement du peuple d'Israël dans le désert, quand ils ont marché dans le désert avec les tentes qui faisaient, qui démontaient, puis ils continuaient dans leur marche. Alors, cela nous fait voir la fragilité de l'Église dans le Nouveau Testament. Le camp des saints, on est en pleine période de voyager dans le désert. Souvent, actuellement, notre marche chrétienne, le Seigneur la compare au peuple de Dieu dans le désert. On est comparable à un peuple qui voyagerait dans le désert avec des tentes. Alors, ça dit qu'ils vont entourer le camp des saints. Après ça, on parle de la cité bien-aimée. Si on veut comprendre la cité bien-aimée, je pense que les deux expressions font référence au peuple de Dieu, à l'Église. La preuve, c'est que quand on va regarder deux versets, il y en a peut-être d'autres, là, mais au moins ces deux versets-là viennent nous dire que quand on dit la cité bien-aimée ou la Jérusalem céleste, on parle de l'Église sur la terre. Alors ici, il parle de Galates chapitre 4, versets 24 à 26. Il dit « Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances, l'une du mont Sina, qui enfante des esclaves, et c'est Agar, car Agar signifie le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est en effet esclave avec ses enfants. » Il parle de la Jérusalem terrestre. « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous. » Jérusalem d'en haut, donc c'est l'Église, l'ensemble des sauvés du Nouveau Testament. Hébreux chapitre 12, versets 22-23. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'Assemblée et de l'Église des premiers-nés. » Voyez-vous, ici, on parle de la Jérusalem, c'est qui? L'Assemblée et l'Église des premiers-nés, inscrits dans les cieux d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, le camp et la ville désignent tous les deux le peuple bien-aimé de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Ce sera le dernier conflit mondial de l'histoire. Ce sera une attaque massive contre l'Église de Jésus-Christ. Ce sera l'oppression mondiale qui s'abattra sur l'Église du Christ avant son retour. Autrement dit, si ce qu'on a dit tantôt est vrai, c'est qu'il va avoir la volonté de détruire l'Église. Ils vont tous d'accord. Alors, il va y avoir une. Ça, les moyens, ce n'est pas nécessairement une guerre où on rassemble à Jérusalem et que là, il va y avoir une grosse armée. Je pense que ça. Il parle de. On parle de symbolisme. C'est que les nations qui sont des ennemis de Dieu, qui ne sont pas régénérées, qui ne sont pas sauvées, vont s'entendre pour vouloir détruire l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et là, ça nous dit un petit peu aussi, qu'est-ce qui va arriver? L'oppression mondiale va arriver, la persécution va arriver, la volonté de destruction va arriver, mais ça nous dit que le Seigneur intervient. Heureux chrétien qu'on est. Verset 9b, ça nous parle de la durée et de l'issue du combat. Ce qui m'a encouragé quand j'ai lu les commentateurs par rapport à ça, on parle de la durée du combat. Imaginons que l'ensemble du monde entier, là, les saints sont enlevés parce que le Seigneur il revient, et que là, eux autres, ils ont dans leur tête de nous détruire. Par tous les moyens possibles et imaginables, et qu'ils se liguent ensemble. C'est drôle, pareil, mais c'est là que le Seigneur intervient. Et on est béni qu'il intervienne, parce que s'il aurait fallu qu'il n'intervienne pas, ça n'aurait pas été drôle, parce qu'on était. C'est là que l'enlèvement correspond avec le retour du Seigneur. Tu vas être enlevé, tu vas être avec lui, lui va être retour, il les laisse aller, mais au moment où ils ont l'intention de nous effacer de la carte, comme on dit, lui y arrive. Ça, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'on se rapportait à penser, ouais, mais combien de temps ça va durer, cette histoire-là, qu'ils vont se monter contre nous autres, qui vont vouloir nous faire du mal, puis qui vont vouloir nous éliminer. Bien, le temps, les Écritures nous disent combien de temps ça va durer le combat. Zéro. Mais, justement, au moment qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir détruire, un feu venant de Dieu, descendu du ciel, et les dévore. Alors, eux, ils pensent qu'ils sont rendus assez puissants pour détruire l'Église de Dieu, pour installer leur gouvernement qui va être une dictature infernale. Au moment où ils pensent qu'ils vont réaliser ça, Dieu dit non, ça ne se produira pas, il est détruit. Quelle merveilleuse nouvelle pour nous. Le combat ne durera pas longtemps. Le Seigneur lui-même interviendra de façon inattendue, de façon soudaine et de façon miraculeuse. Parce que là, on parle d'une destruction de je ne sais pas combien de millions d'hommes, mais beaucoup, peut-être même des milliards. Le temps du jugement est arrivé. Et le feu venant du ciel. Et on va passer à la troisième idée. Satan est jugé. Donc, à ce moment-là, le Seigneur revient, et là, il le juge. Il le juge définitivement et catégoriquement, et de façon irréversible. Fini! Il n'aura plus de Satan. Alors, ça dit, « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. » C'est intéressant, l'image de feu et soufre. Le feu, quand on met du soufre là-dedans, c'est un peu comme si il y a un petit feu, tu mets du gaz. C'est ça. Le soufre a l'effet de gonfler la sévérité du feu, si tu veux. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous souvenez-vous quand j'étais jeune, moi je me souviens quand j'étais jeune, où on nous disait que si on allait en enfer, c'était le diable qui nous, avec les fourches, tu sais, ça disait que c'était lui qui nous faisait du mal. Ici, qu'est-ce que ça dit? Ils seront tourmentés. Satan, le diable. C'est lui qui est tourmenté. Ils seront tourmentés jour et nuit, ça veut dire que ça n'arrêtera jamais. Puis ça dit en plus, pour être certain que ce que tu veux dire par le mot jour et nuit, au siècle des siècles. On parle de l'éternité. Donc, au moment où le Seigneur intervient pour protéger son Église, où il l'enlève, et où là, il juge. Et on va voir la semaine prochaine la destruction, comment ça va se passer, parce qu'il va y avoir le grand jugement, il va y avoir le grand trône blanc, il va juger les gens par leurs œuvres. Et quand on parle d'œuvres, le Seigneur connaît toutes les pensées des pécheurs. toutes les paroles des pécheurs, toutes les actions des pécheurs, toutes les omissions des pécheurs. Il les connaît tous à la perfection. Dans ce bon monde, ils ont beau jeu. Ils engagent un avocat à 200 000, ils s'en sortent, rien là. Ils s'en sortent tout le temps, on le voit autour de nous autres. Là. Presque tout le temps, ils s'en sortent. Mais là, devant le Seigneur, ils ne pourront pas dire « j'ai pas pensé ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça ». Ça va être comme s'il nous présenterait un film où il nous montre ces personnes-là en train de faire tous leurs péchés. Alors Jésus va intervenir comme un éclair dans le ciel. Il fera irruption sur la scène mondiale pour anéantir tous les ennemis de Dieu et de son Église. Alors viendra la résurrection de tous les hommes, suivie du jugement dernier, où tous devront comparaître devant le juge souverain. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Dans le livre de l'Apocalypse, le feu représente le jugement ainsi que les souffrances qui en résultent. La présence du soufre ajoute à l'idée de l'intensité des tourments qui devront être endurés. Le texte prophétise la perdition éternelle du diable et donne l'assurance que la puissance du dragon ne sera pas restaurée. À partir du moment où le Seigneur met le point final, il n'aura plus d'influence sur les hommes. Trois applications. Le Seigneur est encore à bâtir son Église. Son action sera efficace pour sauver tous les élus jusqu'à son retour. Sachons avec certitude que tous ceux qui sont élus, que ce soit des amis, des voisins, des collègues de travail, des parents, seront inévitablement sauvés de la perdition éternelle. Y a-tu de quoi louer la grâce de Dieu là-dedans? Moi, je ne sais pas, ça fait des années que je prie pour mon fils, ça fait des années que je prie pour ma fille, mais je sais que s'ils sont élus, ils vont être... Alors, c'est le côté rassurant de la puissance de Dieu. Deuxième application... Les Écritures nous commandent de considérer la bonté et la sévérité du Seigneur. Lorsque les 1000 ans seront accomplis, Satan et ses alliés seront jugés et plongés vivants dans le lac de feu, qu'il soit loué pour sa justice. Troisième application, prions davantage et soyons plus actifs dans l'annonce de l'Évangile, qu'il soit loué et béni pour sa miséricorde. Que notre glorieux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soit éternellement adoré. Amen.